La vie est difficile par moments. On l'a vu dans les 2 dernières années. Il y a des moyens défis à rencontrer. On n'a aucune réponse pour ces choses-là. On peut faire beaucoup, beaucoup de spéculations sur ce qui arrive, mais dans le fond, on ne sait pas grand-chose. Et on les subit, ces choses-là. On subit les fardeaux de la vie, l'adversité de la vie. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça nous fait vivre toutes sortes d'états d'âme, toutes sortes de problématiques. Et à travers de ça, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et c'est un message d'espoir que je veux vous encourager, par lequel je veux vous encourager ce matin. Alors, mon titre, c'est Dieu veut tout notre cœur et rien de moins. Dieu veut tout notre cœur et rien de moins. Et d'ailleurs, le plus grand commandement, c'est d'abord, aime-moi de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. J'aimerais lire le psaume 139, versets 23-24. Je n'ai pas de PowerPoint. Psaume 134, 139. Verset 23, c'est le psaume de David qui est en train de communiquer avec Dieu. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et j'aimerais coller ça avec, coller ce verset-là, faire un copier-coller sur Luc 15. Une histoire, faire un copier-coller sur l'histoire de l'enfant prodigue. Luc 15, verset 11. Alors, je vais vous lire l'histoire et après ça, bien, on va rentrer dans le texte, dans la réflexion de ce matin. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part qui me revient, bien que qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain, et voici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils dit à son père, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe, revêtez-la, mettez-lui un anneau au doigt, qui était le signe de familial, de faire partie de la famille, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, dans les champs, lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique, les danses, il appela un de ses serviteurs et lui demanda, ce que c'était. Ce serviteur dit, ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère, ne voulut plus entrer, ne voulut pas entrer. Son père sortit, il le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est revenu, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, qui était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Prions. Seigneur, alors qu'on utilise ce texte pour regarder jusqu'à quel point tu veux notre cœur, Seigneur, et dans des moments qu'on peut vivre comme l'enfant prodigue, sur toutes sortes de façons différentes mais semblables. Et Dieu, que tu parles à nos cœurs, que tu cette parole que je vais apporter ce matin puisse être une porteuse d'espoir et d'encouragement pour ceux et celles qui l'entendent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un texte assez intéressant, puis on pourrait se demander, quand on est face à des fardeaux, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait avec quand on lutte avec nos émotions, nos sentiments, ou un péché qu'on vit à répétition, ou une dépendance, ou un mauvais trait de caractère. Et on peut se poser la question, où est Jésus dans notre parcours? Où est Jésus dans tes émotions que tu vis, dans tes pensées, dans tes choix, dans tes états d'âme, surtout quand tu pratiques un péché à répétition? Quoi faire quand les émotions et le péché te collent après la peau? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et la question, c'est « Suis-je charnel? Hein? »« Suis-je charnel? » On se pose beaucoup de questions. Ça nous amène à Galates 5, chapitre 5, parle de ces choses-là. Galates 5, versets 16 et 17. J'aime beaucoup la version Alfred Kuhn, qui est, vous pouvez suivre dans vos bibles, mais vous allez voir, vous allez entendre la différence de cette version-là, qui est très, très, je l'aime parce qu'elle est très colorée, et quand je prépare un message, j'ai à peu près 3-4 bibles, des fois 5 bibles, et je regarde différentes traductions, et ça aide à élargir notre compréhension du texte. Il dit, « Voici mon conseil, marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de faire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes, coupables, ne parviennent pas à leur fin, ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux appétits de vos instincts naturels. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rébiffie contre l'esprit. Les aspirations de notre être ingénéré se dressent sans cesse contre l'être naturel, mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes qui s'opposent sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer l'autre volonté. Et notre volonté, pour s'approprier notre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Si vous vous laissez guider par l'esprit, vous allez échapper à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Mais si vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. Alors, quand tu entends ça, tu dis, coudonc, est-ce que je suis un chrétien charnel ou un chrétien corinthien parle de l'homme naturel puis de l'homme spirituel? Puis Paul, il dit, je m'adresse à des chrétiens charnels, mais mon désir, c'est que vous soyez des hommes spirituels. Donc, ça existe des chrétiens charnels. C'est nous, ça. Quand on manque, quand on pêche, quand on a des mauvais traits de caractère, des excès, quand on embarque dans des addictions, des péchés répétés, quand on se laisse dominer par des sentiments négatifs, des émotions négatives, quand on se laisse prendre et qu'on essaye de par nous-mêmes de s'en sortir, c'est ça l'état naturel de l'homme. Alors, ça s'adresse à nous. Et qui ne pêche pas? Qui ne pêche pas? C'est intéressant, Jérémie. Dieu parle au peuple d'Israël dans Jérémie 2, qui est une clé pour le message de ce matin. Dieu parle à Israël, puis il dit, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Autrement dit, on a des soifs dans la vie, on veut s'abreuvoir. On a toutes sortes d'envies pour s'abreuvoir. Et toutes sortes de plaisirs où on veut s'abreuvoir. Et là, on se creuse des cisternes, autrement dit, on se fabrique des idoles, on se fabrique des choses pour étancher notre soif. Alors, on va à ces choses-là. Et Dieu dit, il veut vraiment qu'on saisisse qu'est-ce qui est en train de se passer. Il ne dit pas, vous avez des mauvais comportements. Changez vos comportements. Il dit, mon peuple a commis un double péché. Il donne la phrase clé qui exprime d'où vient le problème. Et le double péché, c'est d'abord c'est pas la citerne crevassée comme telle, c'est pas l'idole comme telle. Exemple, la gourmandise, ça peut être mon idole. La colère, ça peut être mon idole. L'impatience, ça peut être mon idole. On a toutes sortes d'idoles qui sont dans notre cœur. Mais c'est pas ça le problème. Ça fait partie du problème. C'est l'expression extérieure du problème. Mais il y a une dimension intérieure qui est Dieu dit, mon peuple m'a abandonné. Moi qui peux étancher la soif que vous avez pour aller étancher votre soif ailleurs, dans vos idoles, dans vos citernes crevassées. L'image est bonne qui ne retient pas l'eau. Alors, tu creuses une citerne, hey, c'est quelque chose, creuser une citerne. Tu arrives au bout, il n'y a plus d'eau. Parce qu'elle est crevassée. Faut dire. Mais des fois, on est comme ça, hein? On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, parce que là, on a soif, puis on continue à creuser, puis on pogne un petit peu d'eau, puis on continue à creuser, puis ça tombe, puis on creuse encore, puis on creuse dans le fond, dans notre addiction, dans notre péché, dans nos états d'âme, puis Dieu est en arrière. Il nous regarde s'enfoncer dans le trou, en train de creuser. Alors, sais-tu que il y a des gens que j'ai rencontrés qui se posaient beaucoup de questions, des fois après des messages ou dans des groupes dans lesquels je dirigeais, puis les gens disaient, ben, je suis plus, puis c'est troublant quand tu entends ça, parce que les gens disaient, ben, j'ai un péché répété. Où je vis avec la honte, la culpabilité, et c'est constant, puis t'as prêché que nul ne peut trouver satisfaction en dehors de Dieu, il périt. Dieu ne permettra pas à personne de trouver satisfaction en dehors de toi, en dehors de lui. C'est le chemin de périr qui nous attend. Puis, ben moi, c'est pas, je vis pas la joie, je vis pas la paix du Saint-Esprit que tu parlais, puis pour moi, Dieu m'en veut parce que je vis de la honte, je vis de la colère, je vis de la culpabilité, j'ai un manque d'espoir. Pour moi, Dieu m'en veut. Et c'était la réflexion de la personne. Puis là, la personne a, et c'est cette personne-là qui représente plusieurs croyants que j'ai rencontrés qui luttaient avec leurs problématiques. Vous savez, la parole dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, si on n'est pas affranchi, c'est parce qu'à quelque part, il manque une vérité. Alors, les personnes disaient, pour moi, je ne suis pas sauvé. Pour moi, je ne suis pas sauvé. Parce que c'est la conclusion à laquelle ils sautaient. Ou, ils disaient, il y en a une qui me dit dernièrement, une personne a dit, je crois que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Hey, c'est grave, là. C'est grave quand tu entends ça. La personne est sincère, elle vient te voir, elle ne te connaît pas, mais elle t'a entendu prêcher. Puis si tu n'as pas la joie, puis la paix, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Puis la personne, elle vient s'ouvrir à toi comme ça, à froid, après le message, puis elle dit, pour moi, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Puis pour moi, je ne suis pas sauvé. Elle a dit, une minute, là. C'est pas ça, là. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Il y a d'autres choses de plus profond que ça. Un autre de mes amis, dans un groupe que je dirigeais, il vient me voir et il dit, « Donald, il partageait au groupe. » C'est un groupe très ouvert, un groupe d'hommes que j'ai beaucoup apprécié. Puis il dit, « Écoutez, gars, matin, j'ai un partage à vous faire. Moi, j'ai une habitude sexuelle à laquelle qui revient, qui revient, qui revient, puis qui me colle après la peau. » Puis il dit, « Je suis pas capable de m'en défaire. » Puis il dit, « Cette semaine, là, sur la base de 1 Jean 1:9, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de tout péché. » Il dit, « Moi, là, j'ai prié ça cette semaine, peut-être 10 fois, puis j'ai retombé 10 fois. » Fait qu'il dit, j'ai un problème avec la Bible. Il dit, pour moi, la Bible n'est pas bonne. Pour moi, ça ne marche pas. C'est peut-être juste un vœu pieux. Fait que je l'ai amené dans Jérémie 2,13. Puis j'ai dit, tu confesses le problème extérieur, l'expression extérieure de ton problème. Il dit, là, je ne comprends pas. Mais j'ai dit, ce que tu nous parles, là, c'est de ta citerne crevassée. Tu vas étancher ta soif dans ta pratique qui te colle après la peau, qui est rendue une addiction. Mais j'ai dit, il y a d'autres choses qui est sous-jacent. Puis j'ai dit, on va regarder 1 Jean 1:9 pour le fun. Parce que la Bible, tu sais, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alors, lui, il a pris 1 Jean 1:9 comme tel, puis il l'a appliqué comme tel, direct, ce qui n'était pas une mauvaise affaire. Parce qu'on sait, la parole dit, la parole est vérifiée. 2 fois dans la Bible, Dieu dit d'expérimenter la parole de Dieu. Hein? Alors, 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est point en nous. Fait que j'ai dit, là, on va lire 5 à 9. On va lire cette déclaration-là dans son contexte. Alors, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que nous vous annonçons ce que Dieu est lumière. Dieu est lumière et qu'il n'a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, dans le péché, dans la noirceur, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand nous marchons dans la lumière, il nous purifie. C'est intéressant. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Et là, on confesse. Faire la lumière et confesser. Et c'est comme ça que ça se passe. Puis là, il s'est mis sur un processus de demander à Dieu de faire la lumière sur sa citerne crevassée, sur ce qui l'amenait à tomber. Parce que lui, il était vraiment malheureux. Là. Lui aussi, il disait, je suis un chrétien. Est-ce que je suis né nouveau? Parce que là, je suis pogné avec cette affaire-là. J'ai dit, t'es sincère. J'ai dit, je sais que tu confesses sincèrement, mais tu confesses sincèrement à moitié. Il dit, là, quelque part, ton moi est encore en contrôle. Tu as possédé le contrôle. Tu continues à creuser ta citerne. Tu as possédé ton contrôle à Dieu. Tu n'as pas fermé ta pelle. Tu as gardé ta pelle pour creuser ta citerne. Puis tu dis à Dieu, ben arrête-moi. Puis là, tu tiens ta... Laurent, viens, on va démontrer c'est quoi mourir à soi. Parce que là, ce qu'il faut, c'est mourir à soi. Arrêter de commander à Dieu, dire, moi, j'ai un bon plan pour ma vie qui est meilleur que le tien. Puis je vais continuer à creuser, je garde ma pelle. Mais là, il y a deux façons de mourir à soi. Fait que lui, le gars qui garde sa pelle, il est comme ça. Tu sais, il est sur la croix, puis là, je suis mort à moi. Je suis crucifié avec Christ. Puis je la garde, ma pelle. Puis quelqu'un qui est mort à soi, ben c'est quoi? Ouais, ça, c'est la vraie mort à soi. Il dit, je veux pas tomber. Mais vous voyez la différence? Merci, chérie. À quelque part, il faut lâcher prise et aller aux bonnes places. Le piège, c'est le plaisir. Le plaisir est là. Dieu l'a créé, le plaisir. Il est là, mais quand il est pratiqué en dehors de Dieu, c'est une trappe. Et on en subit des conséquences. On faisait de la préparation au mariage l'année passée avec un jeune couple. On leur a expliqué que oui, il peut avoir beaucoup de plaisir avec la sexualité. Mais on dit, vous allez sortez pas du plan de Dieu, vous allez vivre des conséquences. C'est pas une menace, c'est tout simplement créer une bonne fondation pour votre couple. Mais on vous dira pas qu'il n'y a pas de plaisir dans la sexualité entre un homme et une femme. Mais c'est une moyenne trappe. Et quand on est nos idoles, nos citernes crevassées, c'est le plaisir. C'est le plaisir qui nous attire, qui nous amène là. On ne comprend pas la différence entre le plaisir de la chair et la paix et la joie. Des fois, on a un plaisir, on pense qu'on est correct, qu'on est bon chrétien, mais c'est un plaisir, ça ne dure pas longtemps. C'est éphémère. C'est éphémère. Et quand ça ne marche plus, bien là, on le convoite jusqu'à boire de la bière. Hein? Ça fait un beau verre. Hein? Plaisir éphémère, tant convoité jusqu'à la bière. Parce que là, on ne sait plus quoi faire avec ça. On s'engourdit, puis on vit dans le déni. Le plaisir est temporaire, mais quand il est vécu dans un contexte hors du plan de Dieu, il est destructeur, dévastateur. Et on ne comprend pas nos états d'âme. Pourtant, j'ai eu un plaisir. Il y a des gens qui vont dire aujourd'hui, ben garde le sexe, Dieu nous l'a donné. Pourquoi? C'est quoi l'affaire là, d'attendre d'être marié? C'est quoi l'affaire de ne pas coucher avec sa voisine? C'est quoi? Dieu, la sexualité, ça nous a été donné, c'est pour pratiquer. C'est une sorte de raisonnement aussi. Mais des raisonnements qui font qu'on ne connaît pas la vérité, on ne connaît pas le plan de Dieu. Le plaisir que procurent nos péchés, nos idoles, nos sins crevassés, produisent à coup sûr des résultats de honte, de culpabilité, de remords, de peur, de dépression, d'anxiété. Et ça, c'est le langage du cœur. C'est le langage du cœur. Qu'est-ce qui a fait que, je pose la question, qu'est-ce qui a fait que l'enfant prodigue a viré de bord? On l'a vu dans l'histoire, là. Il vire de bord complètement. Alors, on va retourner à Luc 15. Tantôt, je l'ai lu, mais là, on va regarder un passage clé. Bon. Il est dans sa descente, il n'y a plus d'argent. Et là, il est au point de demander du travail. Et on l'envoie dans les champs, gardien de cochon. Et là, il veut manger. On ne lui permet même pas de manger la nourriture des cochons, ce qui est dégueulasse. Mais lui, il était prêt à en manger, on lui refuse. On l'a isolé, il est isolé parce qu'on l'envoyait, personne ne veut travailler avec les cochons. Alors, on l'a isolé, il n'a plus de relation, il est au bout de lui-même. Alors, les plaisirs qu'il a eu à dépenser toute sa fortune, l'héritage de son père, l'héritage matériel dans l'histoire ici, mais il l'a dépensé et les plaisirs ils ont été éphémères. Là, il se retrouve en état de crise, il se retrouve avec l'échec de toutes ses capacités. Il se retrouve avec la souffrance, la douleur constante, qui ont un effet multiplicateur, qui ont eu un effet multiplicateur dans ses choix, ses attitudes, ses comportements. Mais le problème, c'est pas change ton comportement, change ta citerne crevassée. Fait que la Bible dit au verset, il aurait bien voulu se satisfaire des carouges, la nourriture des cochons, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Hey, faut le faire, là. Alors, étant rentré en lui-même, alors là, il a regardé ce qui s'est passé dans son cœur. Parce que Dieu, il dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose, dans lui sont les sources de la vie. Mais dans Job, qui souffrait beaucoup, qui vivait toutes sortes d'états d'âme, Dieu le prévient, garde-toi de te livrer au mal avec ce que tu vis dans ton cœur, car la souffrance t'y dispose. Pardon? Verset, c'est Job 36, 21. Bienvenue. Alors, ça prend un réveil spirituel pour en sortir. Il faut retourner à Dieu. Ce n'est pas un réveil psychologique où on change nos comportements, où on change nos pensées. Ça, c'est la psychologie, ça. Il faut aller dans le cœur. Dieu veut qu'on aille dans le cœur. Alors ici, l'exemple, c'est étant rentré en lui-même. Intéressant, David, il dit, connaît, après avoir contemplé Dieu, psaume 139, c'est un psaume de contemplation, et après avoir contemplé la grandeur de Dieu, l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience de Dieu, David, il arrive à la conclusion du psaume 139, il dit, OK, d'abord. Il dit, même si je m'en allais à l'ouest, au plus profond des extrémités de la terre, tu seras encore là. Un peu comme la chanson, Dieu est tout le temps là. Il veut nous ramener à lui. Alors David, il dit, OK, ma conclusion, c'est connais mon cœur. Intéressant. Connais mes pensées. Connais mes voies. Puis conduis-moi sur la bonne voie. Souvent, notre focus, c'est qu'on va regarder, on va mettre beaucoup, beaucoup d'attention sur notre idole, sur notre citerne crevassée. Et là, on se bat avec ça. Mais ça, c'est juste une expression extérieure de notre problème. Ce n'est pas la racine. Si on coupe une branche d'arbre, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont pousser d'autres ailleurs. Hein? On ne règle rien. Si un arbre est malade, il faut aller à la racine pour le régler. Puis, c'est un peu la même chose avec nous. Si on change, tes pensées sont pas mal négatives. Change tes pensées. Parce que là, c'est des pensées négatives que tu as. Ben, on ne rend pas service à la personne parce qu'on ne l'aide pas à trouver. T'sais, confie-toi au Seigneur. Là. Confie-toi au Seigneur avec tes pensées négatives. Confie-le au Seigneur. Amène-le au Seigneur. Garde des comportements, là. Amène-le au Seigneur. Jeune chrétien, on m'avait dit ça. Fait que, t'sais, amène ça au pied de la croix. Fait que moi, j'ai pris un sac à poubelle, j'ai mis tous mes fardeaux dedans, mes pensées négatives, mes comportements. J'ai mis ça dans un sac, j'ai déposé ça au pied de la croix, puis je suis parti. Puis ça n'a rien changé. Pourtant, on m'avait dit, amène ça au pied de la croix, puis donne ça à Jésus. J'y ai donné, puis je suis parti. Ça n'a rien changé. C'est pas ça que Jésus dit. L'enfant prodigue subit beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs. Il est arrivé au bout de lui-même. Tout ce qu'il fait ne fonctionne plus, ne marche plus. Et c'est souvent, quand on vit à répétition dans nos problèmes, dans nos états d'âme, dans nos péchés, qu'on répète et qu'on répète, et où on est pris, où on est captif de nos émotions ou sentiments, bien, c'est parce qu'il manque une dimension. Et il faut faire attention parce que faut comprendre, on ne comprend pas le sens de la douleur, on ne comprend pas les signaux qui se passent. Et ça, c'est le langage du cœur. La honte, la culpabilité, les sentiments, la colère, toutes ces choses-là, les sentiments, les émotions, ce sont des signaux. Les pensées, ce sont des signaux. Les comportements négatifs, ce sont des drapeaux rouges qui sont dans nos vies. Souvent, on vit la culpa, la personne qui vivait la culpabilité, bien, elle disait « Dieu m'en veut ». Bien non, elle ne comprenait pas le sens de... Alfred Kuhn, il dit pour le Proverbe 20-30, ça... Il dit, des expériences cuisantes dont vous sortez meurtri et blessé sont un excellent remède contre le mal. Quand Lorraine et moi, on fait de la relation d'aide ou avec des personnes, puis on est assez patient, on comprend assez ce qui se passe, aussi on est respectueux de la douleur, mais à un moment donné, les personnes, ils ont tellement le focus sur leur douleur, sur leur idole, sur... Qui veulent continuer. Ils veulent garder leur pelle. Puis là, on est obligé de leur dire, tu n'as pas encore assez souffert. Et on le dit. On le dit. Parce que tu continues à résister à Dieu. Tu continues à creuser ton trou. Tu n'as pas assez souffert. Et ce n'est pas intéressant à dire, mais souvent, c'est ce qui amène la personne sur le chemin de... Des expériences cuisantes dont vous sortez meurtri et blessé sont un excellent remède contre le mal. Dieu a envoyé Israël dans le désert, à Deutéronome 8:2. Dieu a dit à Israël, ce qu'il dit, change de comportement. Il n'a pas dit ça. Et tu t'es envoyé dans le désert pour que tu vois l'état de ton cœur. Pour que tu vois l'état de ton cœur, ce qui se passe. L'enfant prodigue, ce qui a amené le changement, c'est la souffrance qui était à bout, n'était plus capable. Alors, c'est un indice, ça, que... Et là, il a décidé de... Ça a mis de l'ordre dans ses pensées, parce que là, il s'est mis à penser, pas à jouer avec toutes ses l'idolâtrie. Ça l'a amené à changer de pensée, puis dire, « Hey, mon père, il traite même mieux les gens que ça. » Que de la manière qu'on me traite, ici, on ne me permet même pas de manger de la nourriture des cochons. Fait que je vais retourner chez mon père, puis je vais lui demander de travailler pour lui, parce que lui, il traite bien les employés. Fait que là, il y a un changement qui se passe. Quand il voit l'état de son cœur, comment probablement qu'il était ingrat, pas gingrat, ingrat. C'était l'âge ingrat. Et ça l'a poussé à faire une nouvelle réflexion. Les pensées se sont mises à changer. Et c'est drôle, ça a eu un effet sur son comportement qui l'a poussé à aller voir son père. Et là, et ça, c'est une repentance que la Bible parle dans Corinthiens. C'est une repentance selon Dieu qui amène à la vie. Tandis que s'il avait vécu une repentance selon le monde, une tristesse selon le monde, ben, il aurait dit, « Ah, je me suis fait prendre. Je vais avoir les fous. Pour moi, je vais me réessayer. Je vais retourner chez mon père pour voir s'il pourrait pas... Encore, s'il n'y aurait pas encore de manipulation. Contrôle. Là, il lâche tout. Il lâche tout. Il cède son contrôle. Il dit, c'est fini. Moi, je n'ai plus rien à gagner dans ce style de vie-là. Puis il dit, je vais rentrer. Je vais rentrer chez mon père. Puis je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel. Voyez-vous? Il réalise. Qui a abandonné Dieu. Et contre toi. Le péché relationnel contre Dieu, une offense contre Dieu puis contre les autres. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Hé, hey, là. Wow! Quelle déclaration, quelle humilité. Et c'est ça que ça fait le brisement. Ça nous amène dans l'humilité. C'est ça que ça fait la souffrance. Ça nous dit, essaye-toi plus, ça ne marche plus tes affaires. Là, tu vas aller à Dieu, tu vas faire confiance à Dieu. Parce que souviens-toi de ce que Dieu te dit. Souviens-toi que lui dit, je me souviens de mon père, comment il était. Alors là, les bonnes pensées reviennent. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Son père, il rencontre. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Imaginez la scène. Il s'en va à son père et avant qu'il ouvre la bouche, son père le prend et il dit, « Ah, oh, je suis tellement content. Y avait-tu la plus belle occasion pour manipuler son père? » Il dit, « Maintenant que je suis de retour, tu vas me traiter comment? » Non. Le fils lui dit, « Mon père, son père est en train de l'étreindre. » Lui démontrer de l'amour inconditionnel, comme Dieu, hein? C'est ça l'image de ce texte-là. Le fils dit, « Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « On fait la fête. » Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous autres. Et c'est un voyage, Dieu veut notre cœur. Dieu voulait son cœur. L'autre, le frère de l'enfant prodigue, on comprend pas pourquoi que l'enfant prodigue est parti avec tout son héritage. Peut-être qu'il se tape. Peut-être que son frère, il tapait ses nerfs, parce que son frère, c'est un gars parfait. T'sais, il faisait une bonne religion. Tout ce qu'il faisait, c'était correct. Il l'a dit d'ailleurs à son père. Il dit, moi, j'ai tout le temps bien fait ce que tu m'as dit, puis tu as donné la moitié de ton héritage pour qu'il ait dépensé ça avec les prostituées. Puis en plus, t'as jamais fait la fête pour moi, t'as jamais fait cuire le veau gras, puis moi qui est le parfait chrétien, moi qui est de l'extérieur, mais son cœur, il est pourri. Son cœur, il est pourri. Et dans ce contexte-là, ben moi, je suis plus à l'aise d'avoir une relation avec... J'aime beaucoup plus voir l'attitude, la transformation de l'enfant prodigue que la réaction de son frère, qui a un cœur cancéreux, égoïste, qui continue à creuser ses citernes crevassées, de jouer au parfait chrétien. Le problème, comme je disais, c'est qu'on ne va pas chercher les drapeaux rouges qui se présentent à nous. Quand la femme a dit « j'ai honte, la culpabilité », c'est pas Dieu qui nous fouette avec la honte, puis avec la culpabilité, puis avec le manque d'espoir. C'est notre cœur qui crie, notre cœur qui a été construit, qui a été créé par Dieu, que Dieu nous a donné. Il a donné un langage pour qu'on comprenne, pour qu'on aille à lui avec ce cœur-là. Et le cœur souffre, alors dans le cœur se naissent des pensées, puis dans les pensées font naître des comportements. Et les pensées sont négatives, et les comportements sont contre Dieu, contre l'ordre de Dieu. Alors, essayons pas de corriger nos... Allons à la racine pour corriger. Et c'est un choix qu'on a à faire quand on souffre. Caïn, Genèse, Genèse 3, Genèse 3, on connaît tous l'histoire entre Caïn et Abel. Dieu aime le sacrifice d'Abel et Dieu n'aime pas, rejette le sacrifice de Caïn. L'Éternel porta un regard favorable, Genèse 4, sur verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, est-ce qu'il dit, change ton comportement? Mais non. Il l'amène dans son cœur, à voir son cœur. C'est partout. Dieu s'adresse au cœur partout dans la Bible. Il y a 900 versets dans l'Ancien Testament où Dieu adresse le cœur. Il y a 600 versets dans l'Ancien Nouveau Testament où Dieu adresse le cœur. Ici, Dieu adresse son cœur. Il ne dit pas, « Hey, change d'attitude, change de comportement. » Il ne dit pas, « Change tes pensées. » Il dit Caïn fut irrité, donc c'est le langage du cœur, il vit de l'irritation. Et Dieu le voit, il voit son cœur, parce que Dieu veut notre cœur. Alors Dieu veut son cœur, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu en conséquence? Tu es irrité, ton visage est abattu. Puis qu'est-ce que tu vas faire après comme choix? » Tu sais, on voit l'ordre des choses. Et Dieu, il nous a créés comme ça. Alors, Dieu va, il va pas au comportement, il va pas aux pensées. Il va d'abord à l'origine. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alors, Dieu veut qu'il fasse un examen en profondeur, mais cet examen-là, c'est le langage du cœur. Et c'est là que Dieu va le chercher. L'enfant prodigue a accepté de rentrer, étant entré en lui-même, mais là, il a vu l'état de son cœur, comment il avait été égoïste, ingrat, et etc., etc. Et quand on manque ces signaux-là, ben on peut pas avancer. Il y a le Saint-Esprit aussi. Quand on focus trop sur nos problèmes, sur nos pensées négatives, sur nos comportements, mais ça ne règle rien et ça nous rend insensibles parce qu'on continue à pratiquer l'idolâtrie. On voit nos idoles. Et la Bible dit dans le psaume 115 qu'on devient insensible. On n'entend plus, on ne voit plus, on ne sent plus, on ne touche plus. Il n'y a plus rien qui se passe. Quand on continue à s'attacher à nos idoles. C'est un verset qui fait assez peur, mais après ça, la Bible parle aussi que les cœurs sont verrouillés à la suite de ça. Quand on n'est plus sensible au Saint-Esprit, qu'on a juste le focus sur nos douleurs, nos problèmes, nos émotions, quand la main qu'on est pris avec le manque d'espoir, ben c'est ça. Ça endurcit notre cœur parce qu'on ne trouve pas de réponse selon notre plan, parce qu'on garde notre pelle encore, parce qu'on veut continuer de s'en sortir. On ne va pas à Dieu. Et Dieu dit, viens à moi. Jésus dit, Matthieu 11, 28, et c'est ça la clé. David l'a bien décrit, connais mon cœur, connais mes pensées, connais mes actions, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la bonne voie. Mais ça part du cœur. L'enfant prodigue, ça part du cœur. Le problème de Caïn, ça part du cœur. Tout est là. La clé est là. Alors, on n'a pas à paniquer si on vit du désespoir. Mais si on focus sur le désespoir, après ça, c'est l'anxiété. Puis la dépression. Et je ne parle pas ici d'un débalancement. Il y a des dépressions qui sont causées par des débalancements physiques. J'ai assez étudié là-dedans pour le savoir. Je ne parle pas d'un débalancement physique, chimique, organique. Je parle d'un débalancement spirituel. Et la vraie question, c'est quand je vous donne une clé pour terminer, quand on vit la colère, quand on vit la peur, quand on vit l'orgueil, le mépris, l'impatience, l'amertume, la convoitise, la rage de posséder, l'envie, la vraie question, c'est pas qu'on vit ça, c'est qu'est-ce que ça m'enseigne, ma colère, sur ma relation avec Dieu? C'est pas de changer une pensée négative pour une pensée positive. C'est pas de changer un comportement pour un mauvais comportement. C'est qu'est-ce que mes états d'âme m'apprennent sur ma relation avec Dieu et les uns avec les autres. Dieu, il ne veut pas faire du copier-coller, dans le sens qu'on va enlever ta pensée négative. Non, il veut avoir tout notre cœur. Mais pour avoir tout notre cœur, quand on vit la colère, la peur, l'orgueil, le mépris, l'impatience, bien, il y a des choses à quelque part, c'est parce qu'on a abandonné Dieu. Puis on a voulu, ça représente, toutes ces choses-là représentent le moi qui est en action, qui veut continuer à contrôler sa vie. L'orgueil, c'est notre manque de nous satisfaire en Dieu. Le mépris, c'est Dieu s'est trompé en me créant. L'impatience, c'est je doute que Dieu a choisi le bon moment pour moi. L'amertume, c'est le manque de confiance en Dieu dans sa capacité de faire justice. La convoitise, c'est le désir ultime de possession. Dieu, il sait pas que moi j'en ai de besoin, puis je le sais plus que Dieu. L'envie, c'est un désir amer de posséder ce que l'autre a et qui se transforme et que Dieu a accordé aux autres qui n'accordent pas à moi. Voyez-vous, ça revient tout à ça. Mais si on fait une réflexion dans notre cœur, puis dire, hey, là, j'ai abandonné Dieu, là. C'est là qu'on va trouver la clé. Et c'est ça qu'on confesse. On confesse qu'on a abandonné Dieu. Le problème, c'est pas la colère comme telle, c'est ce qu'on fait avec la colère, puis comment on se laisse dominer par la colère pour nourrir. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, on termine avec ça. Et on va terminer avec un chant. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Déposez vos fardeaux et recevez mon instruction. Recevez mon instruction. Ça veut dire d'aller à Jésus, dire connais mon cœur, connais mes pensées. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Viens m'instruire sur ce que je vis dans mon cœur, qui n'est pas le problématique comme tel, mais qui est le langage. Viens m'instruire sur comment ça nuit dans ma relation avec toi. Puis les uns que les autres. Nulle part dans la Bible, David ou d'autres, ils disent, viens changer mes pensées ou viens changer mes comportements. Ça parle du cœur. Et notre seule solution, c'est aller à Jésus. Et la grâce de Dieu, c'est de rester connecté sur le Saint-Esprit pour nous amener là avec Jésus, pour faire une compréhension et un nettoyage du cœur dans la lumière. On peut faire jouer le dernier chant qui exprime tout et qui est la clé du passage.
Quand le soleil se lève, quand le soleil se lève, sur mes lèvres que mon Jésus, ô Jésus. que mon Jésus. Et lorsque je suis seul, oh, lorsque je suis seul, je ne veux que lui seul, je veux Jésus, oh Jésus.
Ensemble, juste prier pour ce qui a été donné. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur Dieu, qui a le pouvoir de nous régénérer, de nous laver. Seigneur, montre-nous ces endroits dans nos cœurs, Seigneur, où on a des petites citernes, Seigneur Dieu, puis ouf, c'est vide. Puis on creuse avec notre pelle, puis on revient toujours à ces choses-là, ces pensées négatives-là, ces péchés récurrents. On te donne la permission, je te donne la permission, Seigneur Dieu, de sonder complètement mon cœur puis de mettre en lumière par quelqu'un ou directement par ta parole, Seigneur, par le moyen que tu choisiras, Seigneur, de me montrer, Seigneur Dieu, là où je fais ce double péché. Seigneur, le père du fils prodigue, il a couru vers son fils, il l'attendait à bras ouverts, à grands bras ouverts. Et c'est ce que tu veux faire pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Tu nous condamnes pas, Seigneur Dieu, ces indicateurs nous montrant qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils sont là pour nous ramener à toi, nous ramener dans la grâce de Dieu. Alors, je te prie, Seigneur, que ce qu'on a entendu ce matin soit vraiment un message clé, Seigneur Dieu, pour revenir à toi, pour trouver une autre manière de satisfaire nos besoins que ce qu'on a toujours appris ou qu'on a toujours fait, Seigneur. Merci d'être ici ce matin et de faire la différence. Tu nous as montré, Seigneur, durant le message, des choses qui touchent à notre vie personnelle et ton esprit va nous conduire dans ce qu'on a appris. Au nom de Jésus. Amen.